BFM Business présente Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, ça fait des années qu'on en parle, qu'on présente des plans pour lutter contre la crise du logement. Celui présenté ce matin sera peut-être pas la panacée, en tout cas il suscite déjà beaucoup de critiques. On va voir ça bien sûr dans un instant. Sinon, on a des agents de la répression des fraudes qui ont été très actifs l'an dernier. Les chiffres sont tombés ce matin, on va vous les donner. Vous allez voir que, en plus de ça, ils élargissent leur rayon. Ils ratissent beaucoup plus large, les agents de la répression des fraudes, désormais. Et puis, on dira un mot d'Atos, parce que des rumeurs de presse disaient que le fonds américain Bain Capital, qui n'est pas le premier venu, vous en conviendrez, que Bain Capital regarderait de près le dossier. On verra ça avec Frédéric Simotel dans un instant. On parlera tout ça avec nos experts qui arrivent bien sûr dans un quart d'heure, avec eux on parlera aussi de la visite du président chinois en France. Il arrive dimanche pour une visite de 48 heures. Et puis, on dira un mot, vous savez, de cet accord sur les fins de carrière à la SNCF qui fait beaucoup jaser. Bruno Le Maire disait hier qu'il n'était pas au courant. Des rumeurs de presse disent que lui n'était pas au courant, mais que du côté de Matignon, on avait des infos. On racontera bien sûr tout ça. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 19h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc ce plan présenté aujourd'hui en Conseil des ministres pour s'attaquer à la crise du logement qui suscite beaucoup de critiques, il prévoit notamment d'expulser les locataires dont les revenus dépassent les plafonds de loyer. Et puis l'autre mesure qui ne passe pas, elle prévoit d'assouplir les critères de la fameuse loi SRU. Marie Cœur de Roy.
L'assouplissement de la loi SRU, c'est le premier article du projet de loi logement abordable. Il prévoit d'autoriser les communes déficitaires en logement social à intégrer du logement intermédiaire dans ce qu'on appelle leur objectif de rattrapage. Une trajectoire censée chiffrer le nombre de logements HLM à construire sur 3 ans pour se rapprocher des quotas SRU. Dans ces trajectoires, les communes pourront y intégrer jusqu'à un quart de logements intermédiaires et non pas sociaux. Selon le gouvernement, cette mesure permettra notamment de répondre aux besoins des classe moyenne. Analyse que conteste le monde HLM et associatif qui rappelle qu'au regard des plafonds de ressources, le logement intermédiaire s'adresse plutôt aux cadres. Ainsi, à Lyon ou à Lille, un couple avec 2 enfants gagnant jusqu'à 7 500 € par mois pourra y prétendre. Face à la crainte d'un effet d'aubaine pour des communes durablement carencées, le gouvernement a tout de même posé une limite. Sur les 650 villes déficitaires, seules celles comptant déjà 10 ou 15% de HLM pourront en profiter. Exit donc par exemple, Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, qui ne compte que 7% de logements sociaux.
Voilà, un nouveau plan pour s'attaquer à la crise du logement. Celui-ci sera-t-il plus efficace que les précédents ? On en parle bien sûr avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. Dans l'actualité, je vous disais, on a donc eu les chiffres aujourd'hui du tableau de chasse de la répression des fraudes pour 2023. Les agents de la DGCCRF ont fait plus de 90 000 contrôles l'an dernier. Et ce qui est intéressant, c'est que plus ça va, plus ils chassent la fraude dans des domaines de plus en plus variés. Isabelle Gollens a suivi cette présentation du CRU 2023 aujourd'hui à Paris.
De plus en plus de contrôles qui donnent lieu à de plus en plus de sanctions, de 20 à 35% de sanctions en plus que l'année dernière. Je vous donne 2 chiffres, 2000 amendes administratives et surtout 3000 dossiers qui sont allés en justice, qui sont allés au pénal. Ça balaye tout un tas de secteurs, liste non exhaustive, les frais bancaires indus, la facturation abusive dans des résidences seniors ou encore bien sûr la traçabilité des produits bio, des produits made in France. On en a beaucoup parlé pendant la crise agricole. Un exemple, un grossiste en Gironde qui vendait des cèpes soi-disant du département. Il s'agissait en fait de champignons roumains. Cette affaire, par exemple, est allée au pénal. Autre secteur, les syndics de copropriété, les contrôles ont montré qu'il y avait 65% d'anomalies, notamment sur les frais et sur des surfacturations. Mais l'un des plus gros défis des contrôleurs de la répression des fraudes, ce sont les nouvelles arnaques, les nouveaux types de fraudes sur Internet. Elles sont de toutes sortes. C'est ce qu'on appelle les dark patterns, des procédés manipulatoires qui poussent à l'achat. Écoutez la directrice générale de la répression des fraudes.
Un dark pattern, c'est des choses qui vont vous pousser à consommer alors que si vous n'aviez pas eu, par exemple, une alarme qui vous dit « Vite, vite, dépêchez-vous, il ne reste plus qu'un seul produit » ou « Les frais de livraison sont gratuits, mais c'est exceptionnel, c'est juste aujourd'hui » ou des choses où vous allez avoir des cases qui vont être précochées, des choses qui vont vous donner un sentiment d'urgence, vous n'auriez pas acheté.
Et à noter enfin que la répression des fraudes va avoir une attention toute particulière ces prochaines semaines sur le secteur du tourisme, bien sûr, à l'approche des Jeux Olympiques.
Voilà pour le bilan donc 2023. porte-parole de la DGCCRF, Isabelle Gollens, avec nous sur BFM Business. Je vous disais, dure journée pour le titre Société Générale à Bourse de Paris. Il a perdu 5% ce soir. Le groupe avait présenté ce matin des chiffres du premier trimestre qui, dans un premier temps, avaient été bien accueillis par les marchés. Et puis, tout ça s'est retourné comme une crêpe à la mi-journée après une prise de parole des dirigeants, mais Étienne Braque va nous raconter plus en détail dans un instant ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce dossier. Et puis je vous le disais, il y a encore du nouveau dans le dossier Atos. Quasiment comme tous les jours, me direz-vous. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Sauf que là, c'est pas rien, parce qu'il y a des rumeurs de presse, Frédéric, qui disent que le fonds américain Bain Capital, qui est quand même pas le n'importe qui, s'intéresserait au dossier. Si c'est ça, est-ce que ça pourrait changer la donne, Frédéric ?
Oui, et d'ailleurs, c'est tout à fait crédible, hein, parce que donc c'est un géant américain du private equity, hein, il a aux poches bien pleines, hein, 185 milliards de dollars d'actifs hein, aujourd'hui, et ils n'ont jamais caché Bain, qu'ils étaient prêts à prendre des grosses acquisitions, à continuer de la croissance externe pour les sociétés qu'ils suivent, hein, et il y en a beaucoup dans la tech, hein, dans les logiciels, dans la fintech, dans la santé, et c'est l'actionnaire principal, devinez qui, de Inetum. Inetum, c'est GFI Informatique, c'est l'une des 5-6 grosses sociétés, ESN françaises, concurrente de qui ? De Atos, tiens. Donc de Capgemini, voilà. Donc ça tomberait bien. Ça tombe bien aussi, tiens, chez Inetum, le patron s'appelle Jacques Pomereau, c'est un ancien d'Atos. Alors ça fait quelques années, mais c'est lui qui avait monté l'offre cloud d'Atos à l'époque. Donc voilà, il connaît bien la maison. Et puis c'est un rapprochement logique, hein, parce que ce sera un bon complément entre la partie notamment service d'Atos et celle d'Inetum. Hein. Inetum, ils sont présents dans le conseil, les solutions SAP, ServiceNow, l'édition logicielle, et puis tout ce qui est la partie infrastructure, là où ils sont un petit peu moins forts. Et là, justement, où Atos est beaucoup plus fort. Alors, il y a cet aspect, Jacques Pomereau, lorsqu'on l'avait rencontré en novembre, nous a dit, nous, on cherche de la croissance externe. Ça tombe bien. On cherche à se recentrer sur l'Europe, parce que c'est une société qui est très française et très européenne, mais Europe du Sud et un peu en Amérique du Sud. Mais finalement, recentrage sur l'Europe avec Atos, oui, ça peut marcher. Et en plus, on récupère des filiales aux États-Unis. Donc, ça booste encore un peu le marché de ce côté-là. Et puis, ils veulent renforcer le nearshore. Donc, ça aussi, c'est un métier d'Atos. Donc, voilà, il y a pas mal de choses complémentaires. Alors, pour le moment, personne chez Bain n'affirme, ne confirme.
Il n'y a pas de commentaire.
Mais on sait bien que tout ce petit monde discute. Il faut savoir qu'à l'époque, quand Inetum n'était pas encore chez Bain, il y avait eu des rumeurs de rapprochement entre Inetum et Atos, mais à l'époque, Atos était beaucoup trop cher. Il ne l'est plus aujourd'hui, donc oui, c'est peut-être un nouvel acteur qui rentre et qui pourrait changer la donne.
Bon, ça plaît bien au marché, parce que l'action a gagné 7,5%, l'action Atos. Et puis, il y a un autre acteur, alors lui qui s'est manifesté officiellement, Frédéric, aujourd'hui, pour ses activités sensibles, c'est un Français, qui s'appelle ChapVision, c'est un acteur rennais, qui regarde une partie de ses activités.
Qui
est un prestataire critique, des ministères de l'Intérieur et des Armées.
Mission critique et tout ça, voilà. Donc, c'est tous les sujets qu'on voulait revendre à Thalès. Eh bien, voilà, il y a un nouvel acteur qui s'est manifesté. Ça tombe bien, parce que Thalès n'est pas forcément preneur de tout ça. Donc, on va voir comment ça va se passer.
Comment s'en faire du monde autour d'Atos, hein,
Ménoy,
voilà, comme quoi.
La mariée est pas trop... un peu abîmée, mais elle reste encore très belle.
Quoi qu'on en dise. Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. Et puis alors tenez, on a une grosse bataille peut-être qui se prépare dans le secteur minier pour racheter le géant mondial du secteur anglo-américaine. On savait que l'Australien BHP était candidat. Des rumeurs disent désormais que le Suisse Glencore pourrait se lancer dans la bataille. Ce qui intéresse tout le monde apparemment dans cette histoire, ce sont les mines de cuivre. Hélène Cornet nous raconte ça.
C'est la ruée vers l'or rouge. Le cuivre est considéré comme la matière première du futur. La demande va exploser avec la transition énergétique. Le cuivre est en effet le métal idéal pour ses propriétés de conductivité électrique. Véhicules électriques, panneaux solaires, éoliennes, il est utilisé partout. L'an dernier, l'Agence internationale de l'énergie estimait qu'il faudrait ouvrir 80 nouvelles mines de cuivre pour répondre aux besoins. Sachant qu'il faut 17 ans en moyenne pour en ouvrir une, le plus simple est de faire de la croissance externe. De quoi donc relancer les grandes manœuvres ? Anglo-américaine possède des mines au Chili, en Afrique du Sud, au Brésil et en Australie. Si BHP l'emportait, il deviendrait leader avec 10% de l'offre mondiale de cuivre. Sa première proposition de rachat atteignait les 39 milliards de dollars. Elle a été rejetée et devrait être améliorée, surtout si d'autres candidats sont prêts à la surenchère comme Rio Tinto ou Glencore.
Hélène Cornet, ça se confirme, sinon ça ne va pas fort pour WeWork, hein, vous savez, géant américain du co-working. Il va fermer quasiment la moitié de ses sites en France. Il en a 20. Ils vont fermer 8. Vous savez que WeWork est en pleine restructuration au niveau mondial aujourd'hui. Et puis, il y a eu une grosse entrée en bourse aujourd'hui en Espagne. C'est la plus grosse, en tout cas, en Europe depuis le début de cette année. Entrée en bourse du groupe Puig. On est dans le domaine des cosmétiques. C'est un groupe, vous allez le voir, qui présente des marques que vous ne pouvez pas ne pas connaître, évidemment. Mathilde Chaminade.
Nina Ricci, Rabanne, Carolina Herrera ou encore Jean-Paul Gaultier, des marques connues qui appartiennent toutes à cette entreprise familiale espagnole de plus de 100 ans. Présente dans 150 pays à travers le monde, la société Puig a enregistré l'an passé un chiffre d'affaires record de plus de 4,3 milliards d'euros en hausse de 19% par rapport à l'année précédente. Cela fait plusieurs années qu'elle enchaîne les croissances à deux chiffres. Un succès dû à une diversification réussie, maquillage, soins, mode. Ces trois secteurs représentent aujourd'hui 70% de ses ventes. En 10 ans, Puig a racheté pas moins de 11 entreprises, comme Paco Rabanne, qui se distingue en atteignant pour la première fois le milliard d'euros de ventes. Pour Marc Puig, le petit-fils du fondateur et PDG de Puig, cette entrée en bourse doit permettre au groupe d'être plus compétitif sur le marché international et de développer les marques Charlotte Tilbury et Byredo, acquises depuis 2020.
Voilà, Puig qui est donc entré aujourd'hui sur les marchés du côté de Madrid, 18h10. Ben justement, on va sur les marchés. Étienne Brac, Euronext pour BFM Business. Bonsoir, mon cher Étienne. Alors, d'abord un petit mot, Étienne. On en parlait. Société Générale, là, ça avait bien commencé cette journée avec les résultats du premier trimestre. Et puis, on s'est retourné comme une crêpe à la mi-journée. Qu'est-ce qui s'est passé, Étienne?
Bah oui, puisque vous avez un titre qui perd 6% ce soir à la clôture, alors qu'il gagnait quasiment 5% ce matin. Il y a une conférence avec les investisseurs à la mi-journée. Les analystes sont revenus, vous savez, sur deux traders qui ont été licenciés à Hong Kong. Ils n'ont pas vraiment réussi à rassurer Société Générale par rapport au contrôle des risques. Et puis, dans le même temps, vous avez un groupe qui a été très prudent sur les marges d'intérêt en France. Vous savez que les hausses des taux ne sont pas forcément favorables pour les banques, parce que forcément, avec des taux à 4%, il y a moins de distribution de crédit, beaucoup d'attentisme, surtout que la BCE devrait ralentir, en tout cas baisser ses taux cet été. Donc suite à cela, le groupe n'a pas réussi à rassurer sur les perspectives. Depuis le début de l'année, il est stable, ce titre Société Générale, alors que l'Eurostoxx Bank gagne 20%. Et là, on a eu Crédit Agricole, on a eu BNP et Société Générale, et une fois de plus, la banque qui a déçu après la publication de ses résultats trimestriels.
Voilà pour la Société Générale. Alors au-delà de ça, sur le marché parisien, il a fallu attendre vendredi pour avoir une hausse sur le CAC 40, Étienne, quand même.
Ah oui, en effet, première hausse de la semaine avec un CAC 40 qui a tenté de retrouver les 8000 points, mais une nouvelle fois, c'est compliqué. 7957 points, c'est une hausse de 0,5%. Dès hier soir à 22h30, les futurs étaient en hausse avec, bien sûr, l'effet Apple, rendez-vous compte. Deuxième capitalisation mondiale qui gagne plus de 130 milliards comme ça en l'espace d'une séance. Plus 6% ce soir, ce titre Apple, avec le groupe qui annonce tout simplement un programme de rachat d'actions inédit à Wall Street. 110 milliards d'actions Apple qui vont être achetées par la société afin d'être annulées. C'est 4% de la capitalisation boursière du groupe, avec notamment un groupe qui est bourré de cash, qui a 70 milliards dans ses valises, qui ne sait pas quoi en faire, pas de projet, pas d'acquisition, et qui va donc redistribuer une grande partie de sa trésorerie à ses actionnaires. Donc suite à cela, vous avez Wall Street qui est en forte hausse, et puis ce qui a donné également du grain à cette séance, c'est l'emploi américain, avec, ça y est, pour la première fois depuis novembre, un rapport sur l'emploi américain qui a ressorti meilleur qu'attendu, c'est-à-dire que ça se calme un petit peu sur le front de l'emploi et sur le front de l'inflation salariale aux États-Unis. Et ça rassure les investisseurs. De quoi donc retrouver un CAC 40 dans le vert pour la première fois cette semaine. 7957 points ce soir à la clôture, et donc une hausse de 0,57%.
Merci beaucoup, Étienne. Bah justement, on va regarder ce qui se passe du côté de Wall Street. On est porté par ces chiffres de l'emploi, justement. Le Dow Jones là, qui prend 1,1%, 38 663 points. Et puis l'indice Nasdaq qui s'envole de quasiment 2%. Merci Apple. 16 151 points. Tout ça à la mi-séance. 18h13, on arrive avec nos experts dans un instant. Beaucoup de choses. D'abord, cet énième plan en matière de crise du logement. Et puis, bien sûr, on parlera aussi de la visite de Xi Jinping. Il arrive dimanche pour une visite de 48 heures en France. Tout ça, plus d'autres choses, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h16, ils sont là jusqu'à 19h, nos experts du soir, pour refaire toute l'actu du jour, des dernières heures et même des prochaines heures. Vous allez voir, on anticipe hein, sur BFM Business. Samuel Botton est avec nous.
Bonsoir.
Samuel, bonsoir. Expert en communication, Xavier Patrolin. Bonsoir, Xavier.
Bonsoir, Guillaume.
Président d'Albatros Capital. Et puis François Girolf, économiste à l'OFCE. François, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, messieurs. Alors, on a beaucoup de choses dans l'actu ce soir, à commencer par, disons-le, cet énième plan du gouvernement présenté ce matin pour répondre à la crise du logement en France. Est-ce qu'il sera plus efficace? En tout cas, comme les autres, il est critiqué, notamment à cause de cette mesure, vous savez, qui prévoit de sortir les ménages les plus aisés, entre guillemets, des logements sociaux pour laisser la place à des ménages plus précaires. Écoutez, ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, à ce sujet ce matin.
Par exemple, à Paris, un couple avec deux enfants, c'est 8000 euros dont on parle. Donc, quand on a 8000 euros et qu'on est à Paris dans un logement social, effectivement, on a peut-être vocation à laisser la place à des personnes qui, elles, sont à 2 ou 3000 euros et qui attendent parfois depuis des années et des années avant de pouvoir bénéficier d'un logement. C'est une question, en réalité, de justice sociale. Utiliser le logement social pour ceux qui en ont le plus besoin. Et puis quand, à travers la vie, on arrive à mieux s'en sortir, aller vers du logement intermédiaire ou du logement libre pour laisser la place à des personnes qui en ont le plus besoin. Si on fait pas ça, on continuera toujours d'avoir une file d'attente interminable avec 1,8 million de personnes aujourd'hui qui attendent, parfois depuis des années et des années, pour pouvoir bénéficier d'un logement social.
Le logement social, c'est un moment dans la vie, mais c'est pas un droit à vie.
Le logement social à vie n'existe pas.
De fait, si.
Donc, le projet de loi va permettre justement de vérifier que le logement social, c'est une aide qui est consentie par l'État et par les acteurs, temporaire, qui permet de s'en sortir dans la vie quand on est en difficulté, mais qui n'a pas vocation à être un droit éternel à vie, surtout quand on a soit des revenus qui ont largement augmenté, ou du patrimoine.
Bon, alors pardon, mais la moyenne le revenu moyen des ménages qui occupent un HLM, un logement social en France, c'est 15 000 euros par an. Par an ! Donc là, l'exemple à 8000 euros par mois, excusez-moi, enfin, il n'est pas très parlant, quoi. Conclusion, ce plan n'est pas la panacée. Et celui-là ne serait pas plus opérant que les autres sur la crise du logement en France, finalement. Ça meurt, on va regarder ça.
Non, après, il y a, sur les quatre axes majeurs, moi, il y en a deux qui me parlent. Décentralisation, plus de pouvoir pour les maires, ça, c'est une évidence.
Ça va y venir,
à partir du moment où on veut faire du logement social et de surcroît, entre guillemets, en province, mais également à Paris, c'est une nécessité. La simplification administrative, ça, c'est le dada du gouvernement depuis quelques années, et effectivement, il faut y arriver. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est sur libérer l'investissement dans le logement abordable et faciliter l'accès au logement, qui, pour moi, est une formule creuse qui a été reprise par tous les gouvernements successifs, donc pas forcément d'évolution là-dessus. Kasbarian, il a un objectif, c'est de répondre à une crise du logement. Comment est-ce qu'il va faire pour y arriver? Il faut rééquilibrer, jouer sur la demande, réguler les prix. La question de l'investissement privé, qui pour moi ne semble pas forcément la plus abordée dans cette problématique qui pourrait être nécessaire. Et après, j'ai toujours cet exemple en tête, c'est sur les différents logements sociaux qu'on a à Paris, et notamment ceux que j'ai pu constater dans le 16e, notamment autour de Porte de Saint-Cloud, où vous avez toute une ribambelle de logements sociaux. Donc ça veut dire que faire du logement social, et même dans des quartiers qui sont pas forcément adaptés ou auxquels on pense de prime abord, c'est possible, et les mairies le font. Donc la question de la décentralisation, c'est très bien, mais il va falloir actionner d'autres leviers. Et là, pour le coup, l'exemple qui a été cité sur le curseur à 8000 euros versus des foyers à 2-3000...
Eux-mêmes le disent, c'est une mesure qui libère 50 000 logements sociaux. Il y a 2,5 millions de personnes en attente d'un logement social en
foyer,
France.
Foyer. 3,2 millions. Donc, déjà, le ministre, dans le combat politique, mais là, je vais prendre le terme entre guillemets, c'est du foutage de gueule. Les chiffres sont complètement faux. Ce qui est quand même grave pour un ministre du logement, quand bien même c'est un ministre du logement qui est très 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 bas dans la fonction ministérielle. Il y a 3,2 millions de foyers, donc ça veut dire au bas mot entre 7 et 9 millions de personnes, parce qu'on rajoute à un foyer par construction, c'est deux personnes avec un ou deux enfants. Donc voilà. Donc ça donne il y a 5,6 millions de logements sociaux. Donc, si vous libérez 30 000, 40 000 logements par ce dispositif, vous voyez bien que ça ne résout, c'est pas un choc d'offre. D'un côté, vous avez 3,2 millions
Ils ont osé encore le terme de choc d'offre ce matin.
Il est en campagne électorale. Donc, il faut prendre tout ça comme une vaste rigolade. C'est une campagne électorale à la veille des élections européennes qui cible, au fond, qui essaye de mettre en avant la défense de la classe moyenne, parce que c'est central lorsqu'on l'écoute. C'est un dispositif. Prenons simplement l'exemple qui est pris d'un couple avec deux enfants qui aurait 8 000 euros de revenus par mois.
Non, mais c'est pas la majorité des cas. C'est
titanesque. Prenons son son exemple sur Paris.
Oui. Hein,
on prend cet exemple-là. Donc ça voudrait dire que ce couple va du jour au lendemain ou dans les mois qui suivent chercher un logement à Paris. Le problème, c'est que le marché du logement est complètement tendu. Ce qui s'est passé en l'espace de quelques années, c'est-à-dire que l'offre locative a baissé de 20 à 30% parce qu'on lui a substitué l'effet Airbnb, une offre dans les grandes métropoles touristiques, une substitution, donc un effet d'éviction. Et parallèlement, les prix de l'immobilier ont renforcé la résistance. C'est-à-dire que les gens ne bougent plus. Restent, une fois qu'ils ont ou un appartement en location, ils ne bougent plus. Donc c'est un marché complètement gelé. Donc ça veut dire que même si vous voulez, pour que ce dispositif marche, il faut que préalablement le marché libre, le marché ou intermédiaire ou privé, soit fluide. Il ne l'est pas. Alors peut-être qu'à 8000 euros, les gens arriveront à trouver peut-être quelque chose, mais c'est même pas sûr. Ça prouve bien que
c'est un jeu à somme nulle.
C'est un rideau de fumée, mais au moins ça a le grand avantage de nous faire parler ce soir. Ça fait parler toutes sortes. Et on va tenir pendant plusieurs jours là-dessus, et on va retenir quand même une seule chose. C'est comme ces choses nous échappent, feignons de les organiser. Au fond, il y a un ministre qui est en campagne, qui essaye d'être présent, et surtout il défend, et il va dire syntaxiquement dans tous les interviews qu'il va donner, il défend la classe moyenne, mais il ne résout en rien.
C'est ça le problème.
Il ne défend en rien la problématique. Là, on voit bien qu'on a refluidifier le marché immobilier est quelque chose de compliqué. On pourrait parler des étudiants. Moi, j'ai eu sur ce plateau en septembre un spécial, c'est la maison de l'investisseur. Il intervient le matin et il racontait que des proches lui avaient demandé pour un de leurs enfants de trouver un logement à La Rochelle. C'était en septembre. Et donc, il a commencé à bigophoner partout, à chercher. Et après ses recherches, donc c'était début septembre, pour une ville qui est quand même une ville universitaire, il a trouvé deux studios étudiants. Il restait donc... Ça veut dire que le marché locatif pour les étudiants, dans les rentrées universitaires, est complètement tari. Donc, vous avez toutes sortes un véritable blocage du marché immobilier. Donc là, on traite une maladie puissante avec de l'aspirine. Donc, ça ne marchera pas.
Il y a aussi cette mesure qui consiste à dire on va assouplir les modalités de la loi SRU pour permettre aux maires d'intégrer un petit peu le logement intermédiaire à destination des classes moyennes. Là aussi, on sent bien qu'on vise les classes moyennes, effectivement, à la veille des élections, alors que la crise du logement, c'est pas que le problème que des classes moyennes.
Non.
C'est même pas les classes moyennes qui sont les plus concernées dans cette histoire. Ce sont les étudiants dont
parlait Xavier. Je suis d'accord avec vous. Évidemment, je pense que c'est avant tout politique. On allume un certain nombre de feux avant les élections qui sont dans un mois. Emmanuel Macron, je crois, a prévenu un certain nombre de ses ministres que si ça se passait mal pour la majorité présidentielle, ça risquait de se passer mal pour eux aussi. Donc, je crois qu'effectivement...
L'agitation de quelques ministres dont on va parler ce soir.
Je pense qu'il faut voir ça aussi comme ça. Après, moi, je ne suis pas choqué par ce que dit le ministre. Effectivement, des gens qui sont à 8000 euros par mois, est-ce que c'est normal qu'ils puissent rester dans les HLM? Je pense que c'est un débat qui est légitime.
Mais c'est epsilonesque, après, mais d'accord. Mais
c'est pas ça qui va résoudre la crise du logement. C'est très clair. C'est très petit. Et puis, il faut faire quand même un peu attention, parce que quand on enlève des droits à mesure que le revenu des gens augmente, on crée aussi des incitations, par définition, à ne pas augmenter son revenu. Et comme on sait, en plus, à ces niveaux assez bas de revenus, en France, il y a déjà des taux marginaux d'imposition, comme on dit, qui sont très élevés, de l'ordre de 80% quand on est au voisinage du SMIC, parce que les exonérations de charges disparaissent. Si en plus on retire l'avantage logement social, on va diminuer les incitations à travailler, à retrouver un emploi encore plus. Et donc il faut faire un tout petit peu attention à ça, à mon avis.
Samuel.
Un dernier point, moi, qui m'inquiète le plus, c'est qu'on va se retrouver face à une, deux, peut-être trois générations qui ne seront même pas en position de se poser la question de l'accès à la propriété. Mmh. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est vain pour beaucoup. Donc, vous pouvez prendre je pense qu'on peut appliquer ça à tous les millénials. Et ça, c'est un problème. Et c'est aussi
La France des propriétaires.
La France des propriétaires, oui. Il y a cette blague qui circule sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, nos parents achetaient un terrain de 10 hectares pour une bouchée de pain. Et nous, aujourd'hui, on galère pour avoir un 18 mètres carrés dans Paris. En fait, c'est exactement ça. Et il faut même pas penser à plus. Même un 18 mètres carrés, c'est pas évident de l'acheter. Et après, vous pouvez appliquer ça sur d'autres villes, grandes villes françaises. Et après, il faut corréler ça aussi à la question de l'emploi, c'est-à-dire avoir accès à la propriété, avoir un emploi qui le permette. On parlait des 8000 euros, je dis en rigolant, oui, les 8000 euros, si vous êtes en CDI, c'est pas une blague. Si vous déposez un dossier pour un accès au logement, que ce soit une location, enfin, surtout dans le cas d'une location, aujourd'hui, à 8000, si vous êtes auto-entrepreneur, vous ne passez pas. On préférera toujours une personne qui est en CDI. Donc, en fait, il y a plein de tenants et d'aboutissants qu'il va falloir prendre en compte et surtout réenchanter ou réactiver le rêve d'une génération qui est d'avoir accès à la propriété, mais aujourd'hui elle ne se pose même pas la question.
J'insiste sur la notion de choc d'offre qui nous ont encore ressorti, qu'on entend depuis des années. Mais le choc d'offre, c'est quoi? C'est construire plus.
En ce moment, il y a un choc d'offre qui est négatif.
C'est construire plus, c'est ça le choc d'offre.
Mais on n'a jamais eu aussi. Ça fait 25 ans, les chiffres nous disent le niveau de mise en chantier, de début de construction, etc., est historique,
au plus bas.
Mais bas, et historiquement bas. Donc, en fait, on a très peu de mise en chantier, et ça, c'est lié quand même aux taux de la politique monétaire qui sont très importants, on le sait. S'il y a un effet que la politique monétaire a...
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a les taux d'intérêt, il y a l'accroissement des normes, effectivement.
Oui, mais l'accroissement des normes, j'ai envie de dire que ça préexiste à la hausse des taux. Quand vous regardez la courbe des mises en chantier, c'est très clair, la baisse de la construction, ça commence vraiment en début 2022, au moment où les taux commencent ça a augmenté. Donc oui, il y a effectivement toutes ces raisons de long terme, mais qui à cela se surajoute quand même cet effet conjoncturel de la politique monétaire qui est très important.
Ou alors on dit, il y avait une velléité de le faire il y a quelques années, de tordre le bras au maire finalement, dire voilà, c'est les préfets maintenant qui vont avoir la main là-dessus et qui vont imposer leur vue aux maires, les plus récalcitrants, ces maires qui ne veulent pas bâtir par peur d'être battus, ça c'est l'adage qu'on répète.
Ça dépend des maires.
Mais est-ce qu'il faut en arriver là, tout simplement? Je veux dire, on est quand même sur un dossier dont on sous-estime la portée depuis des années en France.
Moi je pense qu'il faut replacer l'immobilier au centre de la politique économique, au centre. Enfin, c'est même supérieur d'une certaine façon à l'industrie, à la réindustrialisation, tout ça. Il faut passer au centre. C'est un besoin primaire.
Tout part de là.
Et donc derrière ça, il y a une bombe sociale. C'est tout le parcours de vie immobilier qui est complètement perturbé, bloqué. Ça part, je parlais des étudiants, il y a effectivement les évolutions sociétales, les familles monoparentales et autres qui ont favorisé des évolutions très importantes de la demande. Et ça va jusqu'effectivement à la retraite, le troisième âge, le quatrième âge. Donc il y a tout, et ça, c'est un vrai sujet, et c'est pour le coup un angle mort de la politique d'Emmanuel Macron. Mais je voudrais juste mentionner quelque chose. Le logement social, c'est le livret A, puisque le livret A, c'est un produit d'épargne qui a pour mission le financement du logement. Je rappelle que depuis 2016, au fond de un an avant l'élection d'Emmanuel Macron, jusqu'à aujourd'hui, la collecte du livret A a été de plus de 100 milliards d'euros. Ces 100 milliards d'euros ont été quasiment pas consacrés, ou une infime partie ont été consacrés au logement social. Pour l'instant, ils sont tankés en produits financiers parce qu'ils ont une vocation supérieure à aujourd'hui pour l'État français, qui est de financer les tranches d'EPR. Je pense que c'est une décision qui a été prise en absence d'un véritable débat démocratique.
Alors choisir son combat.
Et je pense que ça aurait mérité un débat de politique générale à l'Assemblée nationale pour qu'au fond, la représentation nationale, que ce soit les députés ou les sénateurs, s'exprime sur ce sujet. Parce que c'est un sujet central et c'est pas une décision de coulisses. Et donc, de coulisses, c'est d'ailleurs ce qui se fait sous les lambris dorés des ministères ou de la présidence de la République. Et donc là, je trouve qu'il y a une vraie aberration. Et après, il y a aussi peut-être à faire évoluer le statut du bailleur privé, parce qu'il n'y a pas uniquement que l'offre HLM, il y a aussi les bailleurs privés. Il y a peut-être une stabilité fiscale à trouver pour qu'on ait une complémentarité, on ait un effet de deux, c'est-à-dire à la fois le logement social intervient et puis les bailleurs privés pour qu'on ait une offre. Et là, on aurait un véritable choc d'offre. Mais à ce que j'ai entendu ce matin, ou ce que tu relates, il n'y a pas de choc d'offre.
Même si le terme a encore été employé ce matin. Allez, il faut qu'on s'arrête sur ce dossier qui vous a pas convaincu, on l'a bien compris, ce plan du gouvernement ce matin. 18h30 sur BFM Business, je vous redonne les grands titres de l'actualité ce soir. D'abord, le chiffre qu'attendaient les marchés financiers aujourd'hui, le marché de l'emploi qui a ralenti en avril aux États-Unis. On a eu les chiffres tout à l'heure, 175 000 emplois créés le mois dernier contre 315 000, donc plus de double un mois auparavant. Le chiffre a été revu à la hausse tout à l'heure. Le titre Société Générale qui perd 5% ce soir à la Bourse de Paris, c'était bien parti. Pourtant, il a été orienté à la hausse ce matin quand le groupe avait annoncé des résultats trimestriels, certes en baisse, mais moins que prévu. Et puis, on s'est retourné un peu comme une crêpe à la mi-journée après une conférence entre la direction de la SocGen et des analystes financiers. Encore du nouveau dans le dossier Atos. Il y a des rumeurs de presse qui ont circulé selon lesquelles le fonds américain Bain Capital, qui n'est pas le premier venu, bien sûr, regardait le dossier. L'action américaine n'a fait aucun commentaire. En tout cas, l'action Atos a gagné ce soir un peu plus de 7%. Grosse bataille en vue dans le secteur minier pour racheter le géant mondial du secteur anglo-américain. On savait que l'Australien BHP était candidat. Des rumeurs disent désormais que le Suisse Glencore pourrait lui aussi se lancer. Puis ça se confirme, ça va pas fort pour WeWork, un géant américain du coworking. Il va fermer quasiment la moitié de ses sites en France, 8 sur 20. WeWork est en pleine restructuration aujourd'hui au niveau mondial. 18h31, on revient dans un instant avec nos experts. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Allez, 18h33, on est reparti sur BFM Business avec nos experts jusqu'à 19h. Xavier Patrolin est avec nous, François Girolf et Samuel Botton avec nous également. On voulait dire un mot, on peut le faire court, hein, sur... On a déjà beaucoup parlé hier, Samuel était avec nous, cet accord sur les fins de carrière à la SNCF pour les cheminots et les contrôleurs dont on a beaucoup parlé. Vous avez entendu Bruno Le Maire hier qui a annoncé qu'il allait convoquer le patron de la SNCF dans les prochains jours. Bruno Le Maire qui dit entre autres qu'il n'était pas au courant. Bah, c'est possible, c'est le journal L'Opinion qui disait ce matin que lui n'était pas au courant. Vous allez voir cet article si vous regardez la télévision. Mais qu'un conseiller de Gabriel Attal l'était. Une source proche du dossier dit au journal L'Opinion. En gros, Matignon a passé un message très clair à la SNCF en disant « On ne veut pas de grève pendant le pont du mois de mai, donc vous vous débrouillez comme vous voulez ». Bref, la première fois que Gabriel Attal et Emmanuel Macron en ont parlé, c'était après l'annonce de cet accord. Qu'est-ce que vous inspire cet épisode un petit peu grand guignolesque finalement ? Xavier,
comment vous pensez ? On est dans l'open bar. Quand la Cour des comptes mènera un audit sur le financement des Jeux Olympiques, ouais, qui sera publié probablement à la fin de l'année, j'espère que la Cour des comptes intégrera dans le financement des Jeux Olympiques ce type de disposition à caractère financier, puisqu'au fond l'argumentaire de Bruno Le Maire hier a consisté à dire que du point de vue financier ce n'était pas sans conséquences.
Et, oui.
Et donc il est étonnant qu'une telle mesure soit prise sans que le conseil d'administration où siègent les représentants de l'État et donc les représentants du ministère de l'Économie et des Finances n'aient été consultés. Alors il y a plusieurs tutelles évidemment, mais là c'est relativement inquiétant. Et les dispositions qui sont prises, alors quand on les regarde, évidemment c'est une terrible avancée, enfin terrible, une très grande avancée sociale. Mais alors là évidemment tous nos concitoyens sont éberlués devant cette avancée sociale post-réforme des retraites. Alors il faudrait vraiment que cette avancée sociale soit cantonnée à des fonctions qui sont extraordinairement pénibles,
ouais, sur les cheminots et les contrôleurs là.
Alors, voilà. Et donc là j'ai l'impression qu'on est allé très très loin. Donc au fond on achète la paix sociale et donc c'est pas la bonne stratégie parce que et c'est une stratégie d'ultimatum. Et alors bravo à Sudrail qui a remarquablement capitalisé le rapport de force, oui, de la fameuse grève qui avait eu lieu en février. En février, c'est pas très grave, puisque les gens qui partent au sport d'hiver, au fond, c'est une toute petite minorité.
Là, c'est les ponts de mai.
Les ponts de mai, ça touche plus le monde.
Et qui sont bien tankés à mercredi à chaque fois.
Voilà. Et donc,
accord signé à l'unanimité des quatre syndicats représentatifs de la SNCF, ce qui est un fait rarissime, François. Il faut quand même le dire, ça.
Moi, ce que je déplore dans cette histoire et dans d'autres, c'est le manque d'informations. C'est très difficile de savoir au final quels sont les avantages au total qui ont été accordés à ces professions. Il y a eu le cas des contrôleurs aériens aussi, ouais, récemment, qui ont obtenu quelque chose. Apparemment le rapport a un peu fuité, donc on a pu savoir de quoi il retournait. Mais c'est vrai qu'en France on a quand même une tendance où on a une règle officiellement, puis chacun a un statut qui déroge à cette règle. Tout le monde a l'impression, du coup, le but c'est que tout le monde ait l'impression d'avoir le statut le, oui, plus favorisé par rapport aux autres. Mais c'est vrai que quand même, et au départ, c'est vrai que en 2017, notamment Emmanuel Macron s'était fait élire un peu sur une promesse de mettre fin à cette société de statut, d'aplanir un petit peu tout, de transparence. Et c'est vrai que là, on revient un petit peu peut-être au
Oui. Ah, bien sûr.
Samuel.
Alors, je pense que sur l'accord qui a été signé, tout a été dit. Moi, ce qui m'interroge, et il faut avoir plusieurs lectures d'analyse, c'est OK, Matignon était au courant, mais Bruno Le Maire et Bercy ne l'étaient pas. Et là, ça pose plusieurs questions. Est-ce qu'on est sur une crise de gouvernance et sur un Premier ministre qui souhaite...
Je peux comprendre que les rapports entre Bruno Le Maire et Gabriel Attal étaient un peu frais.
Sont très frais, voilà, et peut-être même à une échelle encore plus haute de l'État. Donc c'est toute la question. Est-ce qu'on est dans cette crise de gouvernance avec un Premier ministre qui veut siffler un peu la fin de la récré, puisqu'on l'avait vu quand il a été nommé, se poser la question de comment il pourrait travailler avec Bruno Le Maire, qui est un, ouais, poids lourd du gouvernement, avec Gérald Darmanin, qui est un autre poids lourd du gouvernement, Éric Dupond-Moretti et deux, trois autres. Donc là, je pense qu'en fait, on va passer le cap des 100 jours. Le Premier ministre s'est de toute évidence pris une soufflante de la part du Président sur sa communication et peut-être le manque de combat qu'il a mené dans les élections européennes. Donc voilà, c'était peut-être l'occasion de dire le patron du gouvernement, c'est moi, tu restes un ministre sous ma responsabilité. Mais ça reste quand même très confus dans les explications. Et encore une fois, on reste systématiquement tributaire dans le cas de Bruno Le Maire de l'opinion publique et du besoin de formaliser une explication là où ça n'a pas forcément lieu d'être.
Très vite, donc Xavier, très vite d'un mot avant de passer à Chine.
Non, mais c'est d'autant plus paradoxal à l'aune de la non-décision de Moody's il y a une semaine, de la stratégie du rabot. Et je rappelle que le directeur de cabinet du Premier ministre, c'est l'ancien directeur du budget.
Oui.
Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement Bruno Le Maire. Et donc, là encore une fois, la relation entre le ministre et le vice-premier ministre, parce que pour moi, Bruno Le Maire est vice-premier ministre, est très intéressante et la partie n'est pas jouée.
Alors, au milieu de tout ça, Xi Jinping arrive en France dimanche, messieurs, pour une visite d'État de 48 heures. Emmanuel Macron et Olaf Scholz en ont parlé hier. Ils ont dîné hier soir à Paris pour préparer un petit peu tout ça. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va dire à peu près au président chinois les mêmes choses qu'Olaf Scholz la semaine dernière, qui est allé lui à Pékin? Voilà ce que vous dites, c'est là que la solidarité franco-allemande va se fracasser sur les vagues de la réalité. On sait qu'Emmanuel Macron avait proposé à Olaf Scholz d'assister à une réunion tripartite qui aura la semaine prochaine avec Ursula von der Leyen. Mais qu'Olaf Scholz a déjà des impératifs du côté de la Lettonie et la Lituanie finalement. Comment est-ce que vous voyez cette visite de 48 heures, Xavier? Du président chinois à Paris, finalement. Qu'est-ce qu'on lui dit au président chinois aujourd'hui, finalement?
De toute façon, il est le président chinois. On est dans cette situation de rapport entre l'Europe et la Chine, et entre la France et la Chine. La Chine est à la fois un partenaire stratégique et un rival systémique. Ça demeure. Mais on voit que sur l'industrie j'y reviendrai dans mon coup de cœur à la fin de l'émission, mais on voit que sur l'industrie automobile, on ne peut surtout dans l'industrie automobile électrique, on ne peut rien faire sans la Chine. On ne peut rien faire sans la Chine. Donc du point de vue chinois, l'Europe est un enjeu majeur en termes de marché, parce que les Chinois ont cette intelligence de parfaitement décliner industriellement les normes environnementale française, ce que ne savent pas faire les Européens, les industriels français. Il faut savoir que c'est un véritable cheval de Troie. Hein, et les Français sont là pour le coup très fins. Et nous, notre enjeu, c'est de préserver notre potentiel industriel automobile.
On va en parler après avec le contrat qui va être signé.
Ça va être très difficile. Et donc moi, ce qui m'inquiète au fond dans ce que tu as dit là, je vais rementionner mon caractère un peu d'indépendance et de souveraineté. Mais moi, je suis sûr, Olaf Scholz, quand il va en Chine, quand il va à Pékin, à ma connaissance, il ne consulte pas Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron va à Pékin, il y va avec Ursula von der Leyen. Quand Emmanuel Macron reçoit le dernier empereur Xi Jinping à Paris, ou pas à Paris, dans le sud-ouest de la France, il consulte préalablement Olaf Scholz. Bon, je sais bien qu'il est extrêmement européen et que l'Europe est menacée de s'effondrer ou de disparaître. Enfin, il y a quelque chose de paradoxal. Donc, moi, quelque part, je trouve qu'il y a une asymétrie qui m'apparaît de plus en plus évidente dans la relation. Au fond, il y a un déclin de la puissance française, et c'est ça que j'aimerais voir, ne pas voir. Et je sens cette dimension-là. Donc on essaye, on bloque les voitures chinoises. Mais je sens qu'on est en train de disparaître, hein, de sortir de l'histoire progressivement. Et j'ai l'impression qu'on va donner énormément de on va jouer la grande puissance, mais au fond, on est une grande puissance qui est obligée de s'abriter derrière l'institution européenne ou de s'abriter derrière le partenaire d'outre-Rhin.
Emmanuel Macron a parlé dans l'interview à The Economist de cette question des voitures électriques, de la taxation des voitures électriques, justement. On verra s'il en parle avec la même virulence à partir de lundi. Oui, Samuel.
Moi, je voudrais rebondir sur le propos de Xavier. Alors d'abord, Olaf Scholz se présente comme un défenseur de l'Allemagne. Emmanuel Macron, lui, dans son comportement, il a plus tendance à vouloir être le sauveur du monde. C'est tous les sujets qu'il a essayé de poser systématiquement, au moins de l'Europe. Mais toujours ça. Avec l'ego des hommes. Cette visite du président chinois, je ne sais même pas si on peut la qualifier de visite de courtoisie. C'est peut-être une visite pour la forme, parce qu'il fallait le faire, parce que depuis le Covid, il n'est pas forcément venu nous voir, à nous, Européens.
Et il veut pas qu'on... Après, il va en Serbie, hein.
Oui,
et en Hongrie.
Il faut regarder ça aussi. Hein. Sur la Russie, quand Emmanuel Macron ne pense qu'à une chose, c'est lui parler de la guerre en Ukraine et lui demander de mettre un coup de pression à Vladimir Poutine pour un retour à la normale. Il n'est pas du tout disposé à l'entendre. Sur ça, il a aussi encore en travers de la gorge les enquêtes sur les pratiques commerciales qui ont été mises en place par l'Union européenne, d'où les différents rendez-vous qui vont pouvoir se tenir. Et en fait, c'est un combat qui est perdu d'avance. Et c'est ce que je disais hier, par exemple, sur la polémique qu'il y avait entre Bruno Le Maire et Total, qui voudrait aller à New York. Je dis, d'un point de vue stratégique, il se met dans une mauvaise position parce qu'il est en position de demandeur. Il quémande quelque chose. On est exactement dans la même logique et dans la même stratégie.
Donc cette visite, j'en attends rien de fondamental. Est-ce qu'il y aura des effets d'annonce derrière? J'en suis même pas sûr. Et le problème, ce n'est pas que nous sommes en train de sortir de l'histoire, c'est que nous essayons de surjouer notre rôle et notre place dans l'histoire.
Je cite Emmanuel Macron dans The Economist, un petit peu comme dit l'expression, assis entre des chaises comme Olaf Scholz. Aujourd'hui, nous devons avoir sur le plan commercial avec la Chine un comportement respectueux, mais de défense de nos intérêts, de réciprocité, de sécurité nationale. Ça s'appelle ménager le chèvre le chou quand même.
Le problème, c'est que ces François idées Géraud. De souveraineté européenne, en fait, les Allemands en parlent beaucoup moins que nous parce que eux, ils l'ont déjà, ils exportent déjà en Chine. C'est pour ça que Olaf Scholz va avec ses industriels en Chine pour défendre les intérêts commerciaux de l'Allemagne. L'Allemagne a toujours énormément d'intérêts en Chine. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué du point de vue géopolitique.
Quand il est allé là-bas avec les patrons des BMW, Mercedes, tout à fait. De Volkswagen.
Exactement.
Quand il est allé en Chine.
Exactement. Et à chaque fois, c'est vrai que la France essaie de se greffer et de s'inviter et de s'auto-inviter cette visite. Et à chaque fois, elle n'est pas invitée. Et donc, c'est vrai que ça donne l'impression un petit peu qu'on supplie, qu'on quémande derrière. Et en plus, l'Allemagne a derrière elle des alliés en Europe qui sont un petit peu dans la même situation commerciale qu'eux. Ouais. Nous, on est dans une situation très particulière en Europe avec notre déficit beaucoup plus important que nos partenaires commerciaux. Et donc, du coup, nos intérêts commerciaux, quand on parle de ne plus être naïf vis-à-vis de la Chine, les Allemands, ils voient pas du tout les choses de cette façon-là. Ils ont pas l'impression d'être naïfs vis-à-vis de la Chine. Ils ont l'impression d'avoir des relations commerciale normale vis-à-vis de la Chine.
Ils sont pragmatiques.
Ils ont besoin de garder quelques repères. Beaucoup de leurs certitudes sont ébranlées en l'espace de quelques années. Il faut bien quand même des points d'ancrage aujourd'hui encore.
Oui, des points d'ancrage, mais en même temps...
Le sujet de dérisquer la Chine sans vraiment dérisquer, sans
Passer le partenariat. Parce qu'en même temps, le risque pour eux, c'est que la Chine devienne la Russie, c'est-à-dire que si demain, effectivement, il y avait des tensions géopolitiques, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils sortent de Chine brutalement, de même qu'ils sont sortis de Russie et des intérêts avec la Russie de manière très brutale. Donc pour eux, il y a une forme de risque, mais ils se disent quand même qu'ils préfèrent toujours commercer avec la Chine que rompre les liens donc, par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant parce qu'on a l'impression que la France ne sait pas où elle est et essaye de s'arrimer en quelque sorte les intérêts de l'Allemagne en voyant bien que l'Allemagne joue sa partition toute seule.
Conclusion, Olaf Scholz a pas dit que lundi prochain, il a pas dit qu'il avait piscine, mais il a rappelé qu'il allait en Lettonie, en Lituanie. Bon bah ça l'arrange bien finalement. En fait, de cette réunion tripartite et d'être associé à Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron face au président chinois. Voilà.
Non mais ça veut dire qu'il y a une dissonance, et c'est pas d'aujourd'hui, il y a une dissonance de plus en plus patente entre les intérêts français et les intérêts allemands au sujet de l'Europe. On n'a pas du tout la même interprétation. On le voit sur la défense, on a beau avoir d'immenses envolées lyriques de notre président sur une défense européenne ou autre, ça tombe à chaque coup un peu comme un pavé dans la mare et il n'y a pas de retour. Quand les Allemands ont voulu veulent faire un système antimissile, ils lancent l'initiative, les Français sont pas invités, et pour l'instant, boude avec les Italiens sur le bord de touche, mais il commence à y avoir sur le système antimissile une quinzaine de partenaires. Donc, pour en revenir à la Chine, je trouve qu'on n'arrive pas et donc, pour les Chinois, c'est parfait. Parce qu'il y a une espèce de... Il n'y a pas un bloc
divisé pour mieux régner.
Au fond, il y a une volonté d'Emmanuel Macron d'apparaître comme uni. C'est-à-dire, en tant que Français, je n'arrive pas à faire levier vis-à-vis de l'Empire du Milieu, mais la France, avec l'Union européenne ou avec l'Allemagne, peut tenter de faire levier. Le problème, c'est que nous ne sommes pas d'accord. Donc, ce que vient de dire François sur le commerce extérieur, c'est la parfaite illustration. Sur les objectifs, nous ne sommes pas d'accord.
Un exemple très concret, c'est sur le solaire. Ça fait 10 ans qu'on parle des taxes anti-dumping sur le photovoltaïque chinois.
Pas beaucoup entendu Olaf Scholz là-dessus.
Actuellement, on a une nouvelle, effectivement, offensive des Chinois sur le photovoltaïque parce que comme ils peuvent plus vendre aux États-Unis à cause de la politique protectionniste des États-Unis, ils ont d'énormes stocks à écouler en Europe, ce qui fait baisser les prix. Oui. Et donc, nous, on a des industriels en France qui sont très en difficulté. Donc, on essaye de pousser pour des taxes anti-dumping qui avaient été retirées déjà en 2018, alors qu'elles avaient été mises en place en 2013. Retirées en 2018 à la demande de l'Allemagne. Poussée, donc la Commission européenne avait été sous influence allemande, avait retiré ces taxes anti-dumping parce que les Chinois avaient dit aux Allemands, si vous continuez avec vos taxes anti-dumping, on va faire la même chose sur les automobiles allemandes.
Alors, on parlait de voitures, d'automobiles il y a quelques instants. Alors, ça aussi, on peut en dire un mot, ça va être un temps fort. Lundi, on va signer entre l'État français et la profession un contrat de filière. C'est un document d'une quarantaine de pages qui clarifie en fait, vous savez ce qui est l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de dire 2 millions de véhicules électriques produits en France à partir de 2030, avec une part forte d'intégration en France. On a négocié ça pendant 6 mois. Alors, l'État ne s'est pas engagé, vous savez, sur les baisses d'impôts, sur une baisse du coût du travail, il n'est plus question de créer ce qu'on appelle des zones franches. L'État nous parle de leasing, de bonus écologique, sur amortissement pour les professionnels. On s'engage à atteindre 25 000 bornes de recharge d'ici 2027. C'est sur l'objectif même qu'on s'interroge, en fait. 2 millions de véhicules électriques produits en France.
Même pas sûr qu'on ait 2 millions d'acheteurs.
Déjà, oui.
Au prix du véhicule électrique, j'entends.
Alors, 2030, on verra ce qui sera le prix.
Alors, non, mais ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue à maintes reprises sur ce plateau et Xavier et François en sont témoins. La fin du véhicule thermique à la date annoncée, ça n'aura pas lieu. Je ne suis pas sûr, même si. C'est nécessaire, c'est-à-dire de tendre vers plus de véhicules électriques, mais il va falloir trouver une formule hybride à un moment ou à un autre, parce que ce qui veut dire qu'à un moment il faudra une part de thermique dans tout ça, que tous les foyers, tous les ménages, en tout cas du moins français, ne pourront pas assurer cette transition d'ici la date butoir, que c'est pas forcément une solution de facilité pour tout le monde, et on le voit aujourd'hui, les ventes de l'électrique patogent un peu. La France essaye d'amener des projets, les amène en Europe. C'est le débat qu'on avait eu sur Renault, qui lance son nouveau véhicule électrique, j'ai oublié le Ampère, pardon.
Via Ampère, c'est le nom de la filiale.
Le nom de la filiale, voilà. Donc ça sera fait en Hongrie, si je dis pas de bêtises. C'est un premier pas. Et dans tous ces documents qui doivent être signés bientôt, moi, il y a au moins un point qui me séduit. C'est sur la création de nouveaux métiers, donc qui vont amener à de la formation des collaborateurs, des différents employés de la filière, qui vont pouvoir se réorienter, ça va être pris en charge, c'est une très bonne chose, mais après, sur le reste, je ne suis pas sûr que ce soit forcément
le thermique, efficace. Le thermique, c'est 50 000 emplois, hein, les professionnels s'inquiètent depuis longtemps. François, comment est-ce que vous regardez ça, vous ? Non, ce chiffre, voilà, 2 millions de véhicules produits en France en 2030, est-ce qu'on les produira ? Et comme dit Samuel pose aussi la bonne question, est-ce qu'il y aura 2 millions d'acheteurs potentiels à ce moment-là ?
Non, mais c'est toujours facile d'être dans la position du commentateur et de l'observateur, mais c'est vrai que quand j'ai un chiffre rond comme ça, comme 2 millions, ça a tendance à m'inquiéter. Je me dis pourquoi exactement 2 millions ?
Ah bah faut bien.
C'est comme le 1 million d'apprentis, si vous voulez, au final, si ça coûte 20 milliards d'euros, là c'est pareil. 2 millions, on peut le faire si on subventionne complètement, effectivement, les véhicules électriques. La question c'est à quel coût, en fait ? Parce que 2 millions, oui, c'est possible. C'est vrai que je suis un petit peu inquiet de. Parce qu'il y a un peu l'impression qu'on a une fuite en avant. C'est-à-dire que ça, c'est une question avant tout industrielle, quand même. Alors, même si, évidemment, le lobby automobile est un lobby, évidemment, il défend ses intérêts. Donc, quand il nous dit que c'est pas possible, il a intérêt à nous dire que c'est pas possible. Mais en même temps, il faut quand même bien l'écouter. C'est eux qui savent comment on développe un véhicule électrique. Et donc, c'est vrai que les avertissements successifs, dernièrement, très, très appuyés du patron de Stellantis sont quand même un petit peu inquiétants. On a vu dans le cas du photovoltaïque.
Lui tient ce discours depuis longtemps.
S'est transformé en un consommateur unique au niveau mondial, en fait, et un consommateur privilégié sans être capable de produire quoi que ce soit. Sur la véhicule électrique, il faudrait vraiment qu'on évite la même chose. Et on voit très bien un scénario dans lequel on atteint le 2 millions de véhicules en important 2 millions de véhicules. Et évidemment, c'est tout ce qu'il faut éviter.
Xavier Patrolin.
Là, on est aux confins de vraiment la problématique française. C'est-à-dire, S'il y a bien un secteur industriel qui est complètement exempt, j'ose dire, depuis la crise de Lehman Brothers, c'est le secteur automobile. Je rappelle que la production industrielle automobile française, c'est les chiffres de l'INSEE, hein, je ne raconte pas n'importe quoi. La production industrielle française est 12 à 13% inférieure à ce qu'elle était au 31 décembre 2007, et la production automobile, secteur automobile, il est 30% inférieur. D'accord. On ne s'en est jamais remis. La désindustrialisation française vient principalement, mais pas que, du secteur industriel, automobile. Et donc, on a un secteur exempt. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de contrer. Mais pour réindustrialiser, il faudrait que ce secteur soit en forme. Il ne l'est pas. Et si tu regardes les annonces actuellement, notamment de tout l'écosystème équipementier, c'est que des restructurations. Et que du licenciement. Donc, on n'est pas capable de gérer. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je reviens sur ce que disait Samuel sur la vente de voitures électriques. Pourquoi ça bloque ? Ben, il faut juste écouter les clients. Les happy few qui ont acheté des voitures électriques depuis 3, 4 francs, qui ont les moyens et qui ont acheté. Qu'est-ce qu'ils constatent ? Primo, que les prix de l'électricité s'envolent. Donc ça reste compétitif en urbain. Oui, ça reste intéressant, majeur. Mais ça devient de plus en plus cher. Mais ce qui devient de plus en plus cher, c'est l'entretien. Parce que quand tu emmènes une voiture électrique chez ton garagiste, une voiture électrique, par construction, c'est électrique, d'accord ? Donc, tu n'interviens pas comme sur une voiture thermique. il y a toute une série de préalables de sécurité, et donc c'est éminemment onéreux. On pourrait croire qu'une voiture électrique, c'est pas d'entretien, nanana. Mais non, pas du tout, ça coûte cher. Et donc, au final, le retour d'expérience du marché ben, est en train de dire la voiture électrique à aujourd'hui. Si vous ne voulez pas dire dans 10-15 ans, quand les batteries seront des batteries solides, qu'elles auront des capacités de charge beaucoup plus élevées.
Il y a la question de qu'est-ce qu'on fait des batteries après aussi, voilà, ça on sait pas.
On n'aborde même pas ce sujet-là. Et donc, qu'est-ce qui fait ? Le marché est en train de ripper spontanément, naturellement, vers quoi ? Vers l'hybridation, vers le mélange thermique batterie. Et tu entends les apôtres de l'écologie dire oh là 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 mon Dieu, mais l'hybride c'est pire que tout, parce que ça coûte en émissions de CO2, et en plus quand tu te balades avec des batteries qui sont à plat, ta voiture est mécaniquement plus lourde, donc tu vas consommer plus. Donc non, je pense qu'on n'a pas une bonne année. Et dernier point,
mais c'est une transition de très long terme.
Exactement, personne n'a, il faut installer des bornes, il faut installer de la capacité. Voilà, le principal obstacle de la voiture électrique au-delà de son prix, c'est la capacité de charge. Si tu as une maison, si tu es dans le pavillon, que tu peux avoir du tarif résidentiel, bah, tu gardes ta voiture, t'arrives le soir, et puis le matin, tu as une voiture rechargée quasiment. Ouais. Mais quand tu es en ville, et que t'as pas de parking et que t'as pas de borne, l'autre tu fais comment?
Alors, bah, tu fais pas.
Tu fais pas.
Pour ça, je suis pas d'accord. Pour le coup, là où la France a été assez bonne, c'est sur la politique de déploiement à moyen et à long terme dans le futur de bornes de recharge électrique, avec notamment un gros focus sur les zones urbaines et périurbaines, pour aller justement à la rencontre des gens qui sont dans ces bassins de population où ça va, ça vient, et pouvoir permettre de recharger des véhicules. Mais après, sur le reste, pour le coup.
Voilà, bah, 3 minutes.
Rien sur la 13.
Non, on n'aura pas le temps de parler de la 14 qui va être. L'État va subventionner 50% du prix du péage de la 14 pour les véhicules légers avec au moins 2 passagers. Voilà, ça va revenir à la.
Je voulais juste te dire que le ministre avait été excellent sur la séquence.
Bon, bah écoutez.
Honnête et lucide.
Là aussi, on a acheté la paix sociale pendant les ponts du mois de mai. Moins de 3 minutes pour vos extra time, vos coups de gueule ou coups de cœur pendant 30 secondes. Bah, Xavier, tiens, puisque vous aviez la main sur.
Alors, sur le secteur automobile, c'est un coup de cœur sur le voyage d'Elon Musk en Chine le week-end dernier.
Ouais.
Il a vraiment statut de chef d'État puisqu'il a rencontré Xi Jinping. Donc, c'est assez exceptionnel. Il faut quand même se souvenir que 3 semaines avant, Janet Yellen était allée à Pékin, elle avait passé 4 jours et avait rencontré les ministres, les vice-premiers ministres, le gouverneur de la Banque Centrale, chef d'entreprise, mais elle n'avait jamais rencontré Xi Jinping. Et donc, voilà, donc c'est 2 poids, 2 mesures. Et ça veut dire d'une certaine façon que pour Elon Musk, qui est quand même quelqu'un qu'on écoute du point de vue de la voiture électrique, la Chine est absolument essentielle. Il ne peut rien faire sans la Chine.
Ouais.
Et pour les Chinois, ça veut dire que c'est une manœuvre peut-être de contournement de la tension sino-américaine pour tenter de renouer le dialogue avec un très grand industriel américain.
C'est très révélateur, en tout cas, ce qui s'est passé, effectivement. François Girolf, 30 secondes, mon cher François, c'est à vous.
Alors, un coup de gueule signalé par Philippe Askenazy dans une chronique du Monde qui nous dit que dans le ratio de dépenses publiques sur PIB, qu'on cite très souvent pour dire que la France a beaucoup de dépenses publiques sur PIB, donc 58,2% du PIB quand même en 2022, les retraites des fonctionnaires sont comptées 2 fois.
Oui.
Ce qui est un petit problème quand même, parce que normalement en comptabilité on apprend à pas faire de double compte, et ça explique peut-être en partie aussi pourquoi est-ce qu'on a le sentiment de service public qui dégringole alors même que le ratio dépenses publiques augmente.
Donc tout va bien finalement si c'est compté double.
Non, j'irai pas jusqu'à dire ça.
Effectivement, mais c'est vrai que c'est quand même on
marque une. Mais il faut faire attention.
Effectivement. Voilà. Samuel, 30 secondes.
On va au devant d'une semaine qui va être très amusante économiquement puisqu'on a énormément de jours fériés qui vont se poser. Donc un jour férié en moyenne, c'est 1,5 milliard de pertes pour l'économie française. Sauf que cette année, on est dans une année bissextile, donc ça va s'équilibrer. C'est plutôt la bonne nouvelle. Et là où c'est le plus drôle, c'est que l'industrie va s'arrêter, mais toute l'économie de loisirs et de divertissement va connaître un vrai coup de fouet, et notamment l'hôtellerie de plein air, puisque je crois qu'ils sont sur des bases historiques, ils seront à 80% plein sur la période qui arrive, ce qui est assez rare pour un mois de mai. Donc je trouve que ça va être intéressant, ça va amener les gens à consommer, à prendre un peu de plaisir.
Et bah,
on va mettre l'industrie en pause quelques instants et on va prendre le temps de savourer.
Oui, enfin, à condition qu'il fasse beau. Hein.
Ça dépend où vous êtes, mais nous ne nous adressons pas aux Parisiens.
Il y a quand même ce facteur qui n'est pas négligeable et qu'on ne maîtrise pas encore. Ça viendra peut-être grâce à Elon Musk et consorts, justement. Allez, c'est terminé. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Xavier Patrolin, François Girolf, Samuel Botton. Merci, à très vite, avec plaisir. 18h57, le journal. Et puis les pionniers chez Fred Mazzella dans la foulée. Et puis lundi, tiens, oui, j'en profite, journée spéciale Europe sur BFM Business tous les lundis. Hein, et on en parlera nous aussi de l'Europe tous les lundis jusqu'à la fin de cette élection. et ça sera tous les lundis matin entre 8h et 9h sur BFM Business. Et nous, on parlera bien sûr d'un thème, vous verrez, ça fera partie des curiosités de ce mois de mai. À lundi, bon week-end.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.